Chapitre 9. Assassin. Le dernier véritable maître d'art, qui enseigna aux élèves royaux à Castelserre, ne fut pas Galen, comme l'affirment souvent les archives, mais celle qui l'avait précédé, sollicité. Peut-être avait-elle exagérément attendu avant de choisir un apprenti comme successeur, car quand elle se décida pour Galen, elle était déjà atteinte de la toux qui devait l'emporter. Certains prétendent qu'elle le désigna en désespoir de cause, se sachant mourante. D'autres, qu'il lui fut imposé par la reine Désir, qui souhaitait voir son favori faire son chemin à la cour. Quoi qu'il en soit, elle ne le formait à sa nouvelle fonction que depuis 2 ans à peine, quand elle succomba à sa toux. Étant donné que les précédents maîtres d'art avaient suivi jusqu'à 7 ans d'apprentissage avant d'accéder au statut de compagnon, il fut un peu hâtif de la part de Galen de se déclarer maître d'art tout de suite après la mort de Sollicité. Il paraît en effet inconcevable qu'elle ait pu lui transmettre, en un temps si court, l'intégralité de son savoir de l'art et de toutes ses possibilités. Cependant, nul ne contesta ses revendications. Bien qu'il eût assisté Sollicité pour la formation des 2 princes Chevalerie et Vérité, il décréta leur enseignement terminé dès son accession à sa nouvelle fonction, et par la suite, il repoussa toute suggestion de former de nouveaux disciples jusqu'aux années de guerre contre les pirates rouges, où il se plia finalement aux ordres du roi subtil et créa son premier et unique clan. Rompant avec la tradition qui voulait que les membres et le chef d'un clan fussent choisis par le groupe, Galen désigna lui-même ses étudiants, et durant toute sa vie, conserva une autorité démesurée sur eux. Auguste, le chef nominal du clan, perdit son talent lors d'un accident d'art pendant une mission au royaume des montagnes. Seren, qui prit les rênes du groupe après la mort de Galen, périt en même temps qu'un autre membre, Justin, au cours de l'émeute née de la découverte de l'assassinat du roi subtil. C'est Guillot qui prit alors la tête de ce qu'on nomme aujourd'hui le clan de Galen. À ce moment-là, il n'en restait plus que 3 membres. Guillot lui-même, Ronce et Carode. Il est probable que Galen leur avait imposé une dévotion inébranlable envers Royal, ce qui n'empêcha pas, entre eux, une rivalité pour s'attirer les faveurs de ce dernier. Au crépuscule, j'avais effectué une exploration relativement complète des terrains de la propriété royale, et découvert que tout un chacun pouvait se promener librement dans les allées basses et profiter des fontaines, des jardins, des haies d'ifs et des marronniers, à quoi étaient justement occupés un certain nombre de personnages en beaux habits. La plupart posaient sur moi un regard empreint d'une sévère désapprobation, quelques-uns de pitié, et le seul garde que je rencontrais m'annonça sur un ton ferme que la mendicité était interdite dans les jardins du roi. Je l'assurai que je n'étais venu que pour admirer les merveilles dont j'avais si souvent entendu parler. Il me rétorqua que les on-dit sur les jardins étaient plus que suffisants pour les gens de mon acabit, sur quoi il m'indiqua le plus court chemin vers la sortie. Je remerciai avec la plus grande humilité et m'en allai. Il ne me quitta pas des yeux tant que je n'eus pas tourné l'angle d'une haie qui me dissimula à ses regards. Mon incursion suivante fut plus discrète. J'avais envisagé d'assommer un des jeunes nobles qui déambulait parmi les fleurs et les bordures herbacées pour m'emparer de ses vêtements, mais je m'étais ravisé. J'avais peu de chances de trouver une victime assez maigre pour que ses habits soient à ma taille, et l'accoutrement à la mode qu'il portait paraissait inclure quantité de lassages avec des rubans aux couleurs gaies. J'aurais sans doute eu des difficultés rien qu'à fermer la chemise sans l'aide d'un valet, et encore plus à la retirer à un homme inconscient. Et, de toute façon, les breloques tintantes cousues à la dentelle des poignets n'étaient pas compatibles avec la discrétion exigée par un travail d'assassin. Je préférais donc faire l'ascension de la colline en me dissimulant derrière les haies denses qui couraient le long des murailles basses. Je finis par m'arrêter devant un mur en pierre lisse qui entourait le sommet, d'une hauteur à peine supérieure à celle qu'un homme de bonne taille peut atteindre en sautant. Il n'était sans doute pas conçu pour offrir un véritable obstacle à qui voulait le franchir. Rien ne poussait à son pied, mais de vieilles souches indiquaient qu'en un autre temps, il avait été orné de plantes grimpantes et de buissons. Était-ce Royal qui l'avait fait dégager? Quoi qu'il en fût, La couronne de nombreux arbres était visible de l'autre côté. Je pris le pari de pouvoir compter sur leur abri. Il me fallut la plus grande partie de l'après-midi pour suivre le mur sur tout son périmètre, sans me faire remarquer. Plusieurs portes le perçaient, dont une des plus grandes et des plus ouvragées était gardée par des hommes en livrée qui saluaient les voitures qui entraient et sortaient. D'après le nombre de ces véhicules, quelques festivités devaient être prévues pour la soirée. L'un des gardes se retourna soudain en éclatant d'un rire sec, et je sentis les poils se hérisser sur ma nuque. Un moment, je demeurai figé dans ma cachette. Avais-je déjà vu son visage? Difficile à dire à cette distance, mais je sentis monter en moi un étrange mélange de peur et de rage. Royal, songeai-je, c'est Royal ma cible. Je repris mon chemin. À plusieurs portes de moindre importance, destinées aux livraisons et aux serviteurs, des gardes étaient postés qui compensaient l'absence de dentelle de leurs habits par l'interrogatoire diligent de chaque arrivant. Si j'avais été mieux vêtu, j'aurais pris le risque de me faire passer pour un serviteur, mais dans mes haillons de mendiant, je préférais m'en abstenir. Je trouvai un emplacement hors de la vue des gardes et me mis à demander l'aumône aux marchands qui allaient et venaient. Je ne prononçai pas une parole et me contentai de m'approcher d'eux, les mains en coupe, avec une expression implorante. La plupart faisaient ce que fait tout le monde devant un mendiant. Ils poursuivaient leur conversation comme si je n'existais pas. J'appris ainsi que ce soir se tenait le bal rouge, qu'on avait fait venir des serviteurs, des musiciens et des illusionnistes supplémentaires pour la fête, que le gai bouton avait remplacé l'allègrefeuille pour la fumée préférée du roi, et que le roi s'était fort emporté contre la qualité de la soie jaune qu'un certain Festro lui avait apportée, au point de menacer le marchand du fouet pour avoir osé lui présenter de si piètres articles. Le bal était aussi un adieu au roi, qui s'embarquait le lendemain matin pour aller rendre visite à sa grande amie, Dame Célestra, de Château-Ambre, sur le fleuve Vin. J'en appris bien davantage, mais guère en relation avec mon but. Et pour ma peine, je me retrouvais en plus à la tête d'une poignée de pièces de cuivre. Je regagnai Gué de Négoce, où je finis par trouver une rue tout entière occupée par des tailleurs. À la porte arrière de la boutique de Festro, je tombai sur un apprenti occupé à balayer. Je lui donnai plusieurs pièces de cuivre en échange de quelques chutes de soie jaune de diverses nuances. Je cherchai ensuite l'échoppe la plus humble de la rue, où les pièces qui me restaient suffirent tout juste à m'acheter un pantalon flottant, un sarrau et un mouchoir de tête, comme en portait l'apprenti. Je me changeai dans la boutique, nouai ma queue de cheval haut sur mon crâne et la dissimulai sous le mouchoir. Renfilai mes bottes et sortis dans la rue méconnaissable. Mon épée pendait le long de ma jambe, à l'intérieur de mon pantalon. C'était mal commode, mais pas trop visible, si j'affectais une démarche allongée. Je laissai mes vieux vêtements et mes autres affaires, sauf mes poisons et autres instruments pertinents, dans un buisson d'ortie, derrière des latrines à l'odeur suffocante, dans la cour d'une taverne. Puis je repris le chemin du château de Gué de Négoce. Sans me permettre la moindre hésitation, je me rendis à la porte des marchands et pris place dans la queue de ceux qui attendaient d'être admis. Mon cœur me martelait les côtes, mais je feignis la tranquillité et passai le temps en étudiant les parties visibles du palais à travers les arbres. Il était immense. Plus tôt dans la journée, j'avais été stupéfait de voir autant de terres arables consacrées à des parcs et à des promenades. Je m'apercevais à présent que les jardins n'étaient que le décor d'une résidence qui s'étendait et se dressait à la fois dans un style qui m'était totalement étranger. Rien n'y évoquait le château ni la forteresse. Tout n'était qu'élégance et confort. Quand mon tour vint, je montrai aux gardes mes coupons de soie en prétendant venir présenter les excuses de Festro et quelques échantillons qui seraient, du moins l'espérait-il, plus au goût du roi. Lorsqu'un garde à l'air revêche observa que Festro faisait habituellement ses visites en personne, je répondis d'un ton maussade que, du point de vue de mon maître, des cinglures orneraient plus avantageusement mon dos que le sien, si les échantillons ne plaisaient pas au roi. Les deux hommes échangèrent un sourire complice et me laissèrent entrer. Je pressai le pas pour rejoindre un groupe de musiciens qui étaient passés avant moi, et je les suivis pendant qu'ils se rendaient à l'arrière de la résidence. Je m'agenouillais pour relasser ma botte quand ils s'arrêtèrent pour demander leur chemin. Puis je me redressais juste à temps pour me faufiler sur leurs talons dans le bâtiment. Je débouchais dans un petit vestibule, frais et presque obscur, au sortir de la chaleur et de l'éclat du soleil de l'après-midi. Je m'engageais dans un couloir à la suite des ménestrels qui marchaient d'un pas vif, tout en bavardant et en riant, puis je ralentis et me laissais distancer. Lorsque j'avisais une porte entrebâillée sur une pièce vide, je la poussais, puis la refermais, sans bruit derrière moi. Après quoi, je pris une profonde inspiration et observais les êtres. Je me trouvais dans un petit salon. Les meubles de mauvaise qualité et dépareillés me firent supposer qu'il était réservé à la domesticité. Je ne devais donc pas compter y rester longtemps seul. Plusieurs vastes buffets trônaient cependant le long des murs, et j'en choisis un qui n'était pas situé dans l'axe de la porte. Si jamais elle devait s'ouvrir à l'improviste, j'en réarrangerais rapidement le contenu. Puis, m'installais à l'intérieur en laissant le bâton légèrement entr'ouvert pour faire entrer un peu de lumière, et je me mis au travail. J'inspectais mes fioles et mes papillotes de poison, les triais, puis en enduisis la lame de mon poignard et de mon épée avant de les rengainer avec soin. Je réinstallais mon épée pour qu'elle pende par-dessus mon pantalon. Après quoi, je cherchais une position confortable en prévision d'une longue attente. Des jours entiers semblèrent s'écouler avant que le crépuscule laisse enfin la place à la nuit noire. Par deux fois, des gens pénétrèrent dans la pièce, mais d'après leur bavardage, je compris que tous les serviteurs étaient occupés à préparer la fête. Je passai mon temps à imaginer par quel moyen royal m'éliminerait s'il m'attrapait, et, à plusieurs reprises, je faillis perdre courage. Chaque fois, je me répétais que si je sortais indemne de cette aventure, je devrais apprendre à vivre pour toujours dans la crainte. Pour me changer les idées, je m'efforçais de me préparer. Si Royal était dans le château, son clan ne devait pas être loin. Je pratiquais soigneusement les exercices que m'avait enseigné Vérité pour protéger mon esprit d'autres artiseurs. J'étais atrocement tenté de risquer un petit toucher d'art pour voir si j'arrivais à percevoir leur présence, mais je me retins. Je ne parviendrais sans doute qu'à me trahir. Et même si j'étais capable de les détecter sans me faire remarquer, qu'en apprendrais-je que je ne savais déjà ? Mieux valait me concentrer sur mes protections mentales. Je m'interdis même de songer à ce que j'allais faire, de peur qu'ils ne captent trace de mes pensées. Quand enfin, dans l'encadrement de la fenêtre, le ciel fut complètement noir et constellé, je me glissais hors de ma cachette et me risquais dans le couloir. Des notes de musique flottaient dans l'air nocturne. Royal et ses hôtes festoyaient. Je prêtai un instant l'oreille à la mélodie indistincte d'une chanson familière qui racontait l'histoire de deux sœurs, dont l'une noie l'autre. Pour moi, le miracle dont parlait la chanson n'était pas qu'une harpe jouât toute seule, mais qu'un ménestrel qui découvrait le cadavre d'une femme eut l'idée de fabriquer une harpe avec son sternum. Je chassais ces réflexions pour porter toute mon attention sur la tâche qui m'attendait. Je longeai un couloir sans fioritures, au sol en dalles de pierre et aux murs lambrissés, éclairés par des torches disposées de loin en loin. Les communs, supposais-je. La décoration manquait de raffinement pour Royal ou ses amis, ce qui ne voulait pas dire pour autant que j'étais en sécurité. Il me fallait trouver un escalier de service pour accéder au premier étage. Je suivis le couloir en rasant les murs et en tendant l'oreille devant chaque porte. J'entendis du bruit derrière deux d'entre elles, deux femmes qui conversaient à mi-voix dans l'une, le claquement régulier d'un métier à tisser dans l'autre. Je jetai un rapide coup d'œil dans chacune des pièces dont ne s'échappait aucun son et qui n'étaient pas verrouillées. C'était pour la plupart des ateliers, dont plusieurs consacrés au tissage et à la couture. Dans l'un d'eux, les diverses parties d'un splendide habit en tissu bleu étaient disposées bord à bord, prêtes à être cousues. Apparemment, Royal se complaisait toujours dans son amour des beaux vêtements. Au bout du couloir, je coulais un regard derrière l'angle, un nouveau couloir, beaucoup plus beau et plus large. Le plafond plâtré était décoré d'empreintes de fougères. Je repris ma progression discrète, écoutant aux portes, en entr'ouvrant certaines. « J'approche, » me dis-je. Je tombai sur une bibliothèque où étaient réunis plus d'ouvrages en vélin et de manuscrits que je n'imaginais qu'il en existât. Je m'arrêtai aussi un instant dans une salle où des oiseaux au plumage multicolore somnolaient dans des cages extravagantes. Des plaques de marbre blanc enserraient des bassins qui abritaient des poissons vifs et des nénuphars. Des bancs et des chaises garnis de coussins entouraient des tables de jeu. D'autres tables, plus petites et en merisier, installées çà et là, supportaient des brûloirs à fumer. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais vu pareille pièce. Je parvins enfin dans une salle de vastes proportions, ornée de portraits le long des murs et pavée de plaques d'ardoises noires et luisantes. Je reculais, en remarquant le garde et me rencognai dans une alcôve en attendant que ses pas fatigués l'eussent éloigné de moi. Ensuite, je passai à pas de loup entre les nobles seigneurs à cheval et les belles dames à la mine affectée qui me regardaient du haut de leur somptueux cadre. Je débouchai un peu précipitamment dans une antichambre. Des tapisseries étaient tendues au mur, des statuettes et des vases de fleurs décoraient de petites tables. Même les torchères étaient plus ouvragées qu'ailleurs. Des portraits de dimensions réduites, dans des cadres dorés, flanquaient un âtre au manteau sculpté, et les fauteuils étaient disposés de façon à favoriser les conversations intimes. La musique me parvenait plus distinctement, et j'entendais aussi des voix et des éclats de rire. Malgré l'heure tardive, la fête se poursuivait. Dans le mur en face de moi s'ouvrait une haute double porte en bois gravé. Elle donnait sur la salle de réception ou royale, et ses nobles dansaient et s'amusaient. Je me reculai, derrière un angle, en voyant deux serviteurs en livrée pénétrer dans la salle par une porte loin sur ma gauche. Ils portaient des plateaux chargés de vases à encens. Je restai immobile, l'oreille tendue, pour capter le bruit de leurs pas et leur conversation. Ils ouvrirent les grandes portes et le son des harpes gagna en vigueur, ainsi que le parfum narcotique de la fumée, avant de décroître à nouveau avec la fermeture des battants. Je risquai un coup d'œil. Personne devant moi, mais derrière.
« Qu'est-ce que tu fais là ?»
Mon cœur cessa soudain de battre, mais je réussis à me composer un air penaud en me tournant vers le garde qui était entré derrière moi. « Messire, je me suis perdu dans tous les couloirs de cette grande maison, » répondis-je innocemment.
« Ouais ? Ça n'explique pas que tu portes une épée dans les murs du roi. Tout le monde sait que les armes sont interdites, sauf pour la garde personnelle du roi. Je t'ai vu marauder dans le coin. » Tu croyais pouvoir profiter de la fête pour t'en mettre plein les poches, voleur ?
Pétrifié de terreur, je regardais l'homme approcher. Mon expression épouvantée avait dû le convaincre d'avoir percé à jour mes desseins, car Verde n'aurait jamais souri s'il s'était su face à un homme qu'il avait battu à mort dans un cachot. La main nonchalamment posée sur la garde de son épée, il arborait un sourire assuré. C'était un bel homme, très grand et blond comme beaucoup de Beaugiens. Son écusson représentait le chêne d'or des Montebiens de Bauges, par-dessus lesquels bondissait le cerf des Longavoyants. Ainsi, Royal avait aussi modifié ses armoiries. J'aurais préféré qu'il n'y inclût pas le cerf. Tandis qu'une partie de moi-même se faisait ces observations, une autre replongeait dans le cauchemar des cachots. Je me revoyais remis sur pied par le devant de la chemise afin que cet homme pût me jeter à nouveau à terre à coups de poing. Ce n'était pas peine. Celui qui m'avait cassé le nez, non. Verde lui avait succédé pour me rouer de coups jusqu'à l'inconscience, après que Penn m'avait laissé incapable de tenir sur mes deux jambes. Je le revoyais, campé au-dessus de moi, cependant que je me faisais tout petit devant lui, m'efforçant en vain de m'écarter de lui à quatre pattes, sur le sol de pierre glacée, déjà éclaboussé de mon sang. Je me rappelais les jurons qu'il poussait en riant, chaque fois qu'il devait me relever pour mieux me frapper. « Par les tétons d'Eda, » murmurai-je tout bas, et par ces mots, toute peur mourut en moi.
« Et voir ce que tu as dans cette besace, » dit-il d'un ton sec en s'approchant encore.
Impossible de lui montrer les poisons. Rien ne pouvait expliquer que j'eusse de tels produits en ma possession. Nul mensonge ne pouvait me permettre d'échapper à cet homme. J'allais devoir le tuer. Et tout devint soudain très simple.
Nous étions beaucoup trop près de la salle de réception. Je ne souhaitais alerter personne par un quelconque bruit. Aussi me mis-je à reculer devant Verde, lentement, un pas à la fois, en effectuant un large cercle qui me ramena dans la pièce que je venais de quitter. Les portraits nous regardaient de leur haut, tandis que je battais en retraite d'une démarche hésitante devant le grand garde.
« Arrête-toi » ordonna-t-il, mais je secouai la tête éperdument, en espérant feindre la terreur de façon convaincante.
« Arrête-toi, j'ai dit, espèce de sale petit avorton de voleur !»
Je jetai un rapide coup d'œil par-dessus mon épaule, puis ramenai mon regard sur lui, avec l'expression d'un homme aux abois,
comme si je cherchais le courage de me retourner et de m'enfuir. La troisième fois que j'effectuais ce manège, il bondit sur moi. C'était le geste que j'attendais. Je l'évitais, puis lui enfonçai violemment le coude dans le creux des reins, le projetant à genoux. Ses rotules heurtèrent le sol avec un bruit sec, et il poussa un rugissement de douleur et de fureur, hors de lui que le petit avorton ait osé le frapper. Je le fis taire d'un coup de pied au menton qui lui referma brutalement la bouche, et remercia le ciel d'avoir gardé mes bottes. Avant qu'il pût émettre un autre son, j'avais dégainé mon poignard, et lui en avais passé la lame en travers de la gorge. Avec un gargouillis stupéfait, il porta les mains à son cou dans un vain effort pour contenir le chaud jaillissement de son sang. J'allais me placer devant lui et le regardais dans les yeux. « Fitz-chevalerie, » lui dis-je à mi-voix. « Fitz-chevalerie. » Une brusque compréhension, mêlée de terreur, lui fit écarquiller les yeux. Puis, la vie le quittant, vida son visage de toute expression. Il ne fut soudain plus qu'immobilité et néant, aussi privé de vie qu'une pierre. Pour mon vif, il avait disparu. La vengeance. Comme elle était vite accomplie. Je restais à le contempler dans l'attente d'un sentiment de triomphe, de soulagement ou de satisfaction, mais je n'éprouvais rien. Rien que la sensation d'être aussi dépourvu de vie que lui. Ce n'était même pas de la viande propre à manger. Avec retard, je me demandais s'il se trouvait quelque part une femme qui avait aimé ce bel homme, de blonds enfants qui dépendaient de sa solde pour vivre. Il n'est pas bon qu'un assassin nourrisse de telles pensées. Jamais elle ne m'avait harcelé quand j'exécutais la justice du roi subtil. Je secouai la tête pour m'en débarrasser. Une large flaque de sang allait s'élargissant autour de son cadavre. Je l'avais promptement réduit au silence, mais c'était précisément le genre de résultat que j'avais espéré éviter. Je me creusais la cervelle pour décider s'il valait mieux perdre du temps à la dissimuler ou accepter que ses camarades s'aperçoivent rapidement de son absence et profiter de la diversion que créerait la découverte de son corps. Pour finir, j'ôtai ma chemise et m'en servis pour éponger autant de sang que possible, après quoi, la déposant sur la poitrine du cadavre, je m'essuyai les mains sur sa propre chemise. Puis je le saisis par les aisselles et le traînai hors de la salle au portrait. L'obligation de maintenir tous mes sens en alerte me faisait trembler. Mes bottes dérapaient sans cesse sur le sol poli et ma respiration haletante me donnait l'impression d'un rugissement. Malgré mes efforts pour éponger le sang, nous laissions une traînée rougeâtre derrière nous. À la porte de la salle aux oiseaux, je dus user de toute ma volonté pour tendre l'oreille avant d'entrer. Je retins mon souffle en m'efforçant de ne pas entendre mon cœur qui martelait mes tympans. La salle était vide. J'ouvris la porte, de l'épaule, et entrai, vert d'en remorque. Puis je saisis le cadavre à bras le corps et le poussai dans un des bassins. Les poissons s'égayèrent éperdument tandis que le sang se répandit en volutes dans l'eau limpide. Je me lavai rapidement les mains et la poitrine dans un autre bassin, puis sortis par une autre porte. J'espérais qu'on perdrait du temps à essayer de comprendre pourquoi l'assassin avait traîné sa victime jusque-là pour la jeter dans une des pièces d'eau. Je pénétrai dans une nouvelle salle, dont j'embrassai d'un coup d'œil le plafond en voûte et les murs lambrissés. À l'autre extrémité trônait un fauteuil majestueux sur une estrade. Je devais me trouver dans une sorte de salle d'audience. J'examinai les êtres pour me repérer, puis me figeai soudain. Les portes sculptées loin sur ma droite venaient de s'ouvrir brusquement. J'entendis un éclat de rire, une question murmurée et une réponse gloussante. Je n'avais pas le temps de ressortir, et je ne voyais nul meuble derrière quoi m'abriter. Je m'aplatis contre une tapisserie et gardais une complète immobilité. Le groupe entra dans une vague de rire. L'absence d'énergie qui perçait dans les voix m'indiqua que les intrus étaient sous l'influence de l'alcool ou de la fumée. Ils passèrent à deux pas de moi, deux hommes qui rivalisaient d'efforts pour accaparer l'attention d'une femme, laquelle minaudait avec des gloussements ridicules derrière un éventail à houppes. Tous trois étaient vêtus en camaïeu de rouge, et l'un des hommes arborait des breloques d'argent tintinnabulantes, non seulement à la dentelle de ses poignets, mais tout le long de ses manches bouffantes jusqu'au coude. L'autre portait un petit brûloir à fumer au bout d'une baguette ouvragée, l'ensemble évoquant presque un sceptre. Il l'agitait sans cesse devant ses compagnons, et lui-même tout en marchant, si bien qu'ils étaient constamment environnés de vapeurs douceâtres. Je crois qu'ils ne m'auraient pas vu même si je m'étais mis à faire des cabrioles sous leur nez. Royal semblait avoir hérité du penchant de sa mère pour les drogues, dont il faisait à présent une mode de cour. Je ne bougeais pas tant qu'ils ne se furent pas éloignés. Ils entrèrent dans la salle aux oiseaux, et je me demandais s'ils allaient remarquer le cadavre de Verde dans le bassin. Cela m'eût étonné. Je courus sur la pointe des pieds jusqu'à la porte par où les courtisans étaient entrés, et me faufilai par l'entrebâillement. Je me trouvai soudain dans un immense vestibule entièrement pavé de marbre. Je restai confondu à l'idée de ce qu'il avait dû en coûter de faire venir à Guédenégos une telle quantité de cette pierre. Le plafond était haut, en plâtre blanc, décoré de vastes moulures à motifs de fleurs et de feuilles. Entre des fenêtres voussées à vitraux, à présent obscurcies par la nuit, pendaient des tapisseries aux couleurs si somptueuses qu'on eût dit des baies ouvertes sur un autre monde et un autre temps. L'ensemble était illuminé par des lustres à pendeloques de cristal scintillant, suspendus à des chaînes dorées et garnis de centaines de bougies. Des statues se dressaient çà et là sur des piédestals, et la plupart représentaient, d'après leur physionomie, des ancêtres Montebien de Royal, du côté maternel. Malgré le périlleux de ma situation, je demeurai un moment saisi par la majesté du lieu. Et puis, je levai les yeux et vis de vastes degrés qui montaient du fond de la salle. C'était le grand escalier du château, non l'escalier de service que je cherchais. 10 hommes auraient pu sans mal le gravir de front. Le bois des balustrades était sombre et sculpté d'innombrables volutes qui luisaient d'un lustre profond. Un épais tapis descendait par le milieu des marches comme une cascade bleue. La salle était déserte, tout comme l'escalier. Sans hésiter, je traversai rapidement le dallage de marbre et m'engageai dans les degrés. J'en avais gravi la moitié quand j'entendis un cri. À l'évidence, et à l'encontre de ce que je pensais, les 2 hommes et la femme avaient remarqué le corps de Verde. Au premier palier, des éclats de voix et des bruits de course me parvinrent de la droite. Je m'enfuis à gauche. J'arrivai devant une porte, y collai l'oreille, ne perçus aucun son et m'introduisis dans la pièce, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Je restai immobile dans le noir, le cœur tonnant, et remerciai Eda, elle, et tous les autres dieux qui pouvaient exister, que la porte n'eût pas été verrouillée. L'oreille contre l'épais battant, je m'efforçai d'entendre autre chose que les battements de mon cœur. Des cris montaient du rez-de-chaussée, et des pieds chaussés de bottes dévalaient l'escalier. Quelques instants passèrent, puis une voix pleine d'autorité lança des ordres. Je me déplaçai de façon que la porte, si elle s'ouvrait, me dissimula au moins temporairement, et je pris patience, le souffle haché, les mains tremblantes. La peur jaillit en moi, comme une noirceur soudaine, et menaça de me submerger. Je sentis le sol vaciller sous mes pieds, et je m'accroupis vivement pour éviter de sombrer dans l'inconscience. Le monde se mit à tournoyer autour de moi. Je me fis le plus petit possible, les bras serrés autour des genoux, les yeux fermés, paupières plissées, comme si, par quelque miracle, j'en fusse mieux dissimulé. Une 2e vague de peur déferla sur moi. Je m'écroulai sur le côté, un gémissement au bord des lèvres. Je me roulai en boule, la poitrine écrasée par une terrible douleur. J'allais mourir. J'allais mourir, et je ne les reverrai plus jamais, ni Molly, ni Burick, ni mon roi. J'aurais dû aller retrouver Vérité, je m'en apercevais à présent. J'aurais dû aller retrouver Vérité. J'avais envie de hurler et de pleurer à la fois, car j'avais tout à coup la conviction que jamais je ne pourrais m'échapper, qu'on allait me découvrir et me soumettre à la torture. On allait me découvrir et me tuer à tout petit feu. J'éprouvais le désir presque irrésistible de me lever et de me ruer hors de ma cachette, de tirer l'épée contre les gardes pour les obliger à m'éliminer rapidement. Du calme, ils tentent de t'amener par la ruse à te trahir. Le contact d'art de Vérité était plus léger qu'un fil d'araignée. Un hoquet m'échappa, mais j'eus la présence d'esprit de me taire. Au bout d'un laps de temps qui me parut interminable, la terreur aveugle qui m'étreignait se dissipa. Je pris une longue inspiration hachée et j'eus l'impression de redevenir moi-même. Quand j'entendis des pas et des voix derrière la porte, la peur renaquit en moi. Mais, par un effort de volonté, je ne bougeai pas et tendit l'oreille.
« Je suis sûr de ce que je dis, » fit une voix d'homme.
« Non, il n'est plus là depuis longtemps. Si on met la main sur lui, ce sera dans les jardins. Personne n'aurait pu tenir contre nous deux. S'il était encore dans le château, nous l'aurions débusqué.
Je te répète qu'il y avait quelque chose. Il n'y avait rien !»
répliqua l'autre avec quelque agacement.
« Je n'ai rien senti !»«
Vérifie encore !» demanda le premier d'un ton pressant.
« Non, c'est du temps perdu. Tu as dû te tromper !»
L'énervement du second interlocuteur était évident, malgré leur voix étouffée.
« Je voudrais l'espérer, mais je crains que non. Si j'ai raison, nous aurons fourni à Guillot le prétexte qu'il cherchait. »
Le ton du premier était tendu, mais aussi pleurnichard.
« Lui, chercher un prétexte? Sûrement pas. Il nous dénigre auprès du roi dès qu'il en a l'occasion. À l'entendre, on croirait que lui seul a fait des sacrifices au service du roi royal.
Une servante m'a dit hier qu'il ne mâche plus ses mots.
Toi, selon lui, tu es gros, et moi, il m'accuse de toutes les faiblesses de la chair dont puisse souffrir un homme. Si je n'ai pas la tournure d'un soldat, c'est parce que je ne suis pas soldat. Ce ne sont pas mes jambes qui servent le roi, mais ma tête. D'ailleurs, borgne comme il est, il ferait mieux de s'observer un peu mieux avant de débiner les autres. »
Le ton pleurnichard était désormais très net, et je compris soudain qu'il s'agissait de Ronce. Ronce qui parlait à Carode.
« En tout cas, ce soir au moins, je suis bien certain qu'il ne pourra rien nous reprocher. Je ne perçois rien d'anormal. » C'est Guillot qui te fait voir du danger partout et bondir sur des ombres. Calme-toi, c'est l'affaire des gardes maintenant, plus la nôtre. On découvrira sans doute que c'est le fait d'un mari jaloux ou d'un autre garde.
J'ai entendu dire que Verde avait un peu trop de chance au dé.
C'est d'ailleurs peut-être pourquoi on l'a déposé dans la salle aux oiseaux. Alors si tu veux bien m'excuser, je vais retourner auprès de la noble société à laquelle tu m'as arraché.
Vas-y donc, s'il n'y a que ça qui t'intéresse,
dit le pleurnicheur d'un ton boudeur.
« Mais quand tu auras un moment de libre, je crois qu'il serait sage que nous discutions sérieusement tous les deux. »
Un silence, puis
« J'ai bien envie d'aller le voir dès maintenant, histoire de lui repasser le bébé. »
« Tu vas avoir l'air d'un imbécile, c'est tout ce que tu en auras. »
« Quand tu te ronges ainsi les sangs, tu ne fais que te soumettre à son influence. Laisse-le donc débiter ses avertissements et ses sinistres prédictions, et rester sans arrêt sur ses gardes, à l'écouter. » Sa vigilance est le meilleur rempart du roi. Il cherche à nous imposer ses propres craintes, et il tire sûrement une grande satisfaction d'entendre tes genoux qui claquent. Cache soigneusement ce genre d'inquiétude. »
Les pas s'éloignèrent rapidement, et le rugissement s'apaisa un peu dans mes oreilles. Peu après, l'autre homme s'en alla lui aussi, d'un pas plus lourd et en marmonnant dans sa barbe. Lorsque tout bruit se fut tu, j'eus l'impression qu'un grand poids venait de m'être ôté des épaules. J'avalai ma salive pour humecter ma gorge et réfléchis à ma prochaine manœuvre. De hautes fenêtres laissaient filtrer une obscure clarté dans la pièce. Je distinguais un lit, les couvertures relevées sur des draps blancs, il était vide. La silhouette sombre d'une penderie se dressait dans un coin, et près du lit, un guéridon sur lequel était posé une bassine et un broc. Je me contraignis au calme, inspirai longuement à plusieurs reprises, puis me remis debout, sans bruit. Il fallait que je trouve la chambre à coucher de Royal. Elle devait être située à l'étage où j'étais, et les communs dans les étages supérieurs. J'étais arrivé là en tapinois, mais peut-être était-il temps de faire preuve de plus de témérité. Je m'approchai de la penderie et l'ouvris. La chance me sourit encore une fois. J'étais dans la chambre d'un homme. Je palpai les vêtements à la recherche d'un tissu qui m'évoqua une tenue commode. Je devais me hâter car l'occupant légitime participait sûrement à la fête et risquait de rentrer chez lui à tout instant. Je mis la main sur une chemise de couleur claire, aux manches et au col beaucoup trop ornés de fanfreluches pour mon goût, mais presque à la bonne taille pour mes bras. Je l'enfilai tant bien que mal, ainsi que des choses plus foncées et trop larges pour moi. Je me les fixais à la taille, avec une ceinture en espérant qu'elle ne flotterait pas excessivement. Je découvris aussi un pot de pommade parfumée, dont je me servis pour me lisser les cheveux en arrière et les renouer en queue de cheval, après m'être débarrassé de mon mouchoir de tête. La plupart des courtisans que j'avais aperçus portaient les leurs en boucles huilées, à l'exemple de Royal. Mais certains des plus jeunes les nouaient comme moi, en queue. Je fouillais à tâtons, dans plusieurs tiroirs et trouvai un médaillon au bout d'une chaîne que je passai autour de mon cou. Il y avait aussi une bague, trop large pour mon doigt, mais c'était sans importance. J'espérais ne pas attirer l'attention, et mon déguisement résisterait à un examen superficiel. Sur la foi de la chemise ensanglantée que j'avais laissée, on chercherait un homme torse nu en pantalon de toile grossière, et, avec de la chance, on le chercherait dans les jardins. Je m'arrêtai sur le seuil de la chambre, pris une profonde inspiration, puis ouvris lentement la porte. Le couloir était vide, et je sortis. À la lumière, je m'aperçus avec contrariété que mes chaussettes étaient vert foncé et ma chemise jaune pâle. Ce n'était pas plus criard que ce que j'avais vu plus tôt, mais j'aurais du mal à me fondre dans la masse des invités de ce bal rouge. Résolument, je chassai ce souci de mes pensées et m'engageai dans le couloir d'un air dégagé, donnant l'impression de savoir où j'allais, à la recherche d'une porte plus grande et plus décorée que les autres. Avec audace, je poussai la première devant laquelle je passais. Elle n'était pas fermée. J'entrai et me trouvai dans une salle qui abritait une immense harpe et plusieurs autres instruments de musique disposés comme dans la tente de ménestrel. Divers fauteuils et divans rembourrés occupaient le reste de l'espace. Au mur étaient accrochés des tableaux d'oiseaux. Je secouai la tête, effaré des trésors incalculables que recelait ce palais, puis repris ma recherche. Dans l'état de tension qui était le mien, le couloir paraissait s'allonger à l'infini. Je m'efforçais néanmoins d'adopter un pas confiant et nonchalant tandis que les portes défilaient et que j'en ouvrais quelques-unes au hasard. Celle de gauche était apparemment toutes des chambres à coucher, celle de droite, des salles de plus vaste dimension, bibliothèque, salon et autres. Au lieu de flambeaux, des chandelles sourdes éclairaient le couloir décoré de tentures murales aux couleurs somptueuses et, de loin en loin, de vases de fleurs et de statues exposées dans des niches. Je ne pus m'empêcher de faire la comparaison avec les murailles austères de Castelserre, et je me demandais combien de navires de guerre on aurait pu armer et d'équipages recrutés avec l'argent qu'avait coûté l'ornementation de ce nid douillettement raffiné. Ma colère ne fit qu'affermir ma résolution. Je trouverai la chambre de Royal. Je passai devant trois nouvelles portes sans m'arrêter, puis arrivai devant une quatrième qui paraissait correspondre à ce que je cherchais. Double, en chêne doré, elle était gravée du chêne, symbole de Bouge. J'appliquai brièvement l'oreille contre le bois et n'entendis rien. Avec circonspection, je manipulai la poignée polie. La clenche était mise. Mon poignard faisait un instrument grossier pour ce genre de tâche, et ma chemise jaune était trempée de sueur dans le dos quand le loquet céda enfin. J'ouvris prudemment la porte, me faufilai à l'intérieur et la refermai vivement derrière moi. J'étais certainement dans les appartements de Royal. Pas dans sa chambre à coucher, non, mais chez lui. J'examinai rapidement la pièce. Il ne s'y trouvait pas moins de quatre hautes penderies, regroupées deux par deux le long de deux murs opposés, et un grand miroir au milieu de chaque groupe. Le battant en bois surabondamment sculpté de l'une d'elles était entr'ouvert, peut-être à cause de la masse de vêtements qui l'empêchait de se fermer complètement. D'autres habits étaient pendus à des crochets ou des portants dans la pièce, ou drapés sur des fauteuils. Les tiroirs fermés à clé d'une petite commode renfermaient probablement des bijoux. Les miroirs, situés entre les penderies, étaient encadrés par des chandeliers aux bougies presque entièrement consumées. Deux petits brûloirs à fumer étaient disposés de part et d'autre d'un fauteuil qui faisait face à un troisième miroir. Sur une table, à côté, un peu en retrait, des brosses, des peignes, des pots de pommade et des flacons de parfum. Une mince volute de vapeur grise s'élevait encore d'un des brûloirs. L'odeur douceâtre me fit froncer le nez, puis je me mis au travail. « Fitz, que fais-tu ? Une question à peine perceptible de vérité. Je fais justice. » Je n'avais mis qu'un souffle d'art dans ma réponse. Était-ce mon appréhension ou celle de vérité que je ressentais soudain ? Je l'ignorais. Je chassais cette préoccupation de mon esprit et m'absorbais dans ma tâche. C'était frustrant. La pièce ne renfermait guère d'objets dont je pusse avoir la certitude qu'ils véhiculeraient efficacement mes poisons. Je pouvais certes traiter la pommade, mais j'avais plus de chances de tuer celui qui coiffait Royal que Royal lui-même. Les brûloirs, eux, contenaient surtout des cendres, et les produits que j'y mélangerais finiraient sans doute aux ordures. La cheminée d'angle avait été nettoyée pour l'été, et il n'y avait pas de réserve de bois. « Patience, me dis-je. La chambre à coucher ne devait pas être loin, et les occasions y seraient meilleures. » En attendant, j'enduisis les poils de la brosse à cheveux avec une de mes concoctions les plus virulentes, et je trempais dans le reste le plus de boucles d'oreilles possible. J'ajoutais les dernières gouttes au flacon de parfum, sans grand espoir néanmoins que Royal s'en mette assez pour se tuer. Les mouchoirs parfumés et pliés dans son tiroir m'inspirèrent de les saupoudrer de spores blanches d'ange de la mort, afin de le distraire par des hallucinations en attendant la mort. Je pris davantage de plaisir à poudrer de mortes racines l'intérieur de 4 paires de gants. C'était le poison dont il s'était servi contre moi dans les montagnes, à l'origine sans doute des crises dont j'étais victime de temps en temps depuis lors. J'espérais qu'il les trouverait aussi amusantes chez lui qu'il s'en était diverti chez moi. Je choisis 3 chemises qui devaient, à mon avis, être parmi ses préférées pour en traiter le col et les poignets. Il n'y avait pas de bois dans l'âtre, mais je possédais un poison qui se fondait bien aux traces de cendre et de suie sur les briques. J'en répandis généreusement dans la cheminée dans l'espoir que, quand on y ferait du feu, les vapeurs délétères arriveraient jusqu'aux narines de Royal. Je venais de ranger le produit dans ma poche quand une clé tourna dans la porte. À pas de loup, je contournai une penderie derrière laquelle je me dissimulais. J'avais déjà le poignard à la main. Une sérénité mortelle m'avait envahi. Je respirais sans bruit, dans l'attente, en espérant que le sort venait de jeter Royal entre mes griffes. Mais non, c'était un garde aux couleurs du roi. Il pénétra dans la pièce, y jeta un rapide coup d'œil. L'air agacé, il dit d'un ton impatient. « C'était fermé à clé. Il n'y a personne ici. » J'attendis la réponse de son camarade, mais il était seul. Il resta un instant sans bouger, puis il poussa un soupir et s'approcha de la penderie entr'ouverte. « C'est complètement idiot. Je perds mon temps ici alors qu'il est sûrement en train de s'échapper, » marmonna-t-il, ce qui ne l'empêcha pas de dégainer l'épée pour sonder prudemment les vêtements. Comme il se penchait pour atteindre le fond de la penderie, j'aperçus son visage dans le miroir en face de moi. Mon cœur se glaça, puis la haine se mit à flamboyer en moi. Je ne connaissais pas le nom de cet homme, mais son expression moqueuse était gravée à jamais dans ma mémoire. Il faisait partie de la garde personnelle de Royal, et il avait assisté à ma mort. Il dut voir mon reflet dans la glace en même temps que moi le sien. Sans lui laisser le temps de réagir, je bondis sur lui par derrière. La lame de son épée était encore empêtrée dans les habits de Royal, quand je lui enfonçai mon poignard dans le bas du ventre. Je lui passai l'avant-bras autour du cou pour me donner un point d'appui, tandis que je tirais mon poignard vers le haut, pour l'éventrer comme un poisson. Il ouvrit la bouche pour hurler, je lâchai mon arme, lui appliquai la main sur les lèvres et le maintins immobile pendant que ses entrailles se déversaient par la blessure béante. Quand je le laissai aller, il s'écroula, son cri étouffé changé en gémissement. Il tenait toujours son épée. Aussi posai-je mon pied sur sa main en lui brisant les doigts sur la garde. Il roula légèrement sur le flanc pour lever vers moi un regard empreint de souffrance et d'hébétude. Je mis un genou en terre près de lui pour approcher mon visage du sien. « Fitz-chevalerie, » fis-je à mi-voix, les yeux plantés dans les siens pour m'assurer qu'il comprenait. « Fitz-chevalerie. » Et pour la seconde fois de la nuit, je tranchai une gorge, bien que ce ne fût guère utile. J'essuyai la lame de mon poignard sur sa manche, tandis qu'il rendait le dernier soupir. En me redressant, je ressentis 2 choses, de la déception qu'il fût mort si vite, et une sensation qui m'évoqua une harpe dont on pince une corde et qui laisse échapper un son plus pressenti qu'entendu. L'instant suivant, un raz-de-marée d'art déferla sur moi. Il était chargé de terreur, mais cette fois, je savais ce que j'affrontais, et j'en connaissais la source. Je demeurais ferme, mes défenses inébranlables, et j'eus presque l'impression de sentir le flot s'écouler autour de moi. Pourtant, je perçus aussi que ma résistance était lue par quelqu'un, quelque part. Et je n'avais pas à me creuser la cervelle pour savoir qui. Guillot tâtait mes murailles. Je sentis l'écho de la vague de triomphe qui surgit en lui. Une fraction de seconde, je restai pétrifié, saisi d'affolement, puis je me dirigeai vers la porte, en rengainant mon poignard et me glissai dans le couloir toujours désert. Je n'avais qu'un temps limité pour trouver une nouvelle cachette. Guillot, par les yeux du garde et aussi nettement que lui, avait vu la pièce et moi-même. À présent, je le sentais qui artisait, tel un sonneur de trompe, les gardes pour les lancer sur moi comme des molosses sur la piste d'un renard. Tout en fuyant, je savais avec une certitude absolue que j'étais mort. Je parviendrais peut-être à me cacher quelque temps, mais Guillot m'avait repéré dans le palais. Il lui suffisait de faire bloquer toutes les issues et de passer le bâtiment au peigne fin. Je traversai une salle au pas de course, tournai un coin et gravis un escalier 4 à 4. Je maintenais mes murailles d'art solidement érigées et m'accrochais à mon petit plan comme à une pierre précieuse. Je devais trouver la chambre de Royal et y empoisonner tous les objets, après quoi j'irai chercher Royal lui-même. Si les gardes me surprenaient les premiers, eh bien, je les ferais courir. Avec la quantité de poison que je portais sur moi, ils ne pourraient pas me tuer. Je me suiciderais d'abord. C'était un plan qui ne valait pas grand-chose, mais la seule autre solution était de me rendre. Aussi poursuivis-je ma course. Les portes, les statues et les fleurs défilaient de part et d'autre de moi. Toutes les portes que j'essayais d'ouvrir étaient fermées à clé. Je tournai un nouvel angle et me retrouvai en haut de l'escalier par lequel j'étais monté. Je me sentis un instant pris de vertige et désorienté. Je voulus chasser cette impression, mais la terreur monta soudain en moi comme une marée de ténèbres. On eût dit le même escalier, mais je savais n'avoir pas tourné assez souvent pour y être revenu. Je repris ma fuite dans le couloir. J'entendis des gardes crier à l'étage inférieur tandis que la compréhension se faisait jour en moi, accompagnée d'une sensation de nausée. L'art de Guillot se resserrait sur mon esprit. Vertige et pression derrière les yeux, farouchement, je consolidais mes murailles mentales. Je tournai vivement la tête et je vis double un moment. L'effet de la fumée ? Je n'avais guère de résistance contre les vapeurs intoxicantes qu'appréciait Royal. Cependant, ce que je ressentais était plus fort que l'ivresse provoquée par la fumée ou la douce léthargie du guet-bouton. L'art est un outil puissant dans les mains d'un maître. J'étais auprès de Vérité quand il l'employait contre les pirates rouges pour embrouiller un homme de bar au point qu'il précipite son navire sur les rochers, pour convaincre un navigateur qu'il n'avait pas encore passé telle amer alors qu'il l'avait déjà laissé loin derrière lui, pour susciter crainte et doute dans le cœur d'un capitaine avant l'attaque, ou pour exacerber le courage d'un équipage, afin qu'il se jette étourdiment dans une tempête. Depuis combien de temps Guillaume manipulait-il? M'avait-il subtilement mené à cet affrontement, en me persuadant qu'il ne s'attendait pas à ma venue? Par un effort de volonté, je m'arrêtai devant une porte, puis me concentrai sur la clenche pendant que je la tournais. Elle n'était pas verrouillée. J'entrai dans la pièce et refermai la porte derrière moi. Des coupes de tissu bleu étaient étendues sur une table, prêtes à être cousues. J'étais déjà venu ici. Un instant, j'en éprouvai du soulagement, puis je réfléchis. Non, la pièce en question était au rez-de-chaussée et je me trouvais dans les étages. Ou bien... Je m'approchai rapidement de la fenêtre et jetai un regard discret à l'extérieur. Loin en contrebas s'étendaient les jardins du roi, avec la grande allée blanche qui ressortait dans la nuit. Des voitures arrivaient, et des serviteurs en livrée s'empressaient çà et là d'ouvrir les portières. Des dames et des gentilshommes en tenue extravagante, toutes rouges, quittaient le château par bande entière. J'en conclus que la mort de Verde avait quelque peu gâché le bal de Royal. Aux portes, des gardes en livrée triaient les personnes autorisées à s'en aller, et celle qui devait attendre. J'embrassai tous ces détails d'un seul coup d'œil, et me rendis compte que je me trouvais beaucoup plus haut que je ne le croyais. Pourtant, j'étais sûr d'avoir vu au rez-de-chaussée la table et le tissu bleu disposé pour être cousu dans les communs. Mais après tout, il n'était pas du tout inconcevable que Royal se fît préparer deux tenues bleues, et de toute façon, je n'avais pas le temps de percer ce mystère. Il me fallait trouver sa chambre. Une étrange excitation me saisit alors que je sortais de la pièce et reprenais ma course dans le couloir. Une exultation qui n'était pas sans évoquer celle que procure une bonne chasse. Qu'ils m'attrapent, s'ils en étaient capables. J'arrivais soudain à un embranchement en T et m'arrêtai un instant. désorienté. Cette conformation ne me semblait pas cadrée avec ce que j'avais vu du bâtiment depuis l'extérieur. Je jetai un coup d'œil à gauche, puis à droite, où le couloir prenait un aspect nettement plus imposant. La grande double porte au fond était frappée du chêne doré de Bouges. Comme pour mieux m'aiguillonner, des éclats de voix furieux me parvinrent d'une pièce à ma gauche. Je pris à droite et tirai mon poignard tout en courant. Devant les grandes portes, je posai discrètement la main sur la poignée en m'attendant à les trouver fermées à clé. Mais non. Le battant s'ouvrit sans résistance et sans bruit. C'était presque trop facile. Je chassai néanmoins mes appréhensions et entrai, la lame de mon poignard à nu. La pièce dans laquelle j'avais pénétré était plongée dans l'obscurité. En dehors de l'éclairage fourni par deux bougies qui brûlaient dans des supports en argent sur le manteau de la cheminée. Je me trouvais manifestement dans le salon de Royal. Une deuxième porte entrebâillée laissait voir l'angle d'un lit aux rideaux magnifiques, et plus loin, une cheminée avec une réserve de bois déjà préparée dans l'âtre. Je refermai doucement la porte derrière moi et m'avançai. Sur une table basse, une carafe de vin, deux verres et une assiette de douceur attendaient le retour de Royal. Le brûloir qui accompagnait ces objets était plein de fumée en poudre, prête à être allumée. Pour un assassin, c'était un rêve, et j'avais du mal à décider par où commencer. « Vous voyez donc comment on arrive à ce résultat ?» Je me retournai d'un bloc, et une soudaine distorsion des sens me laissa étourdi. J'étais au milieu d'une pièce bien éclairée, mais relativement dépouillée. Guillot était nonchalamment assis dans un fauteuil garni de coussins. Un verre de vin blanc sur une table à portée de sa main. Carode et Ronce se tenaient de part et d'autre de lui, avec une expression à la fois déconfite et irritée. Malgré l'envie qui me tenaillait de regarder autour de moi, je n'osais pas la quitter des yeux. « Vas-y, bâtard, jette un coup d'œil derrière toi. Je ne t'attaquerai pas. Il serait dommage de tendre un tel piège à quelqu'un comme toi et de te tuer avant que tu puisses juger de l'étendue de ta défaite. Vas-y. « Regarde derrière toi !» Je me retournai lentement, afin de pouvoir reporter rapidement mon regard sur Guillot. Tout avait disparu. Plus de salon imposant, plus de lit à baldaquin, plus de carafe de vin, plus rien, rien qu'une pièce toute simple, où se réunissaient, sans doute, des chambrières. Ses gardes en livrée se trouvaient là aussi, muets, mais attentifs, l'épée hors du fourreau. « Mes compagnons considèrent... « Semble-t-il qu'une tempête de terreur peut débusquer n'importe qui, mais naturellement, ils n'ont pas autant que moi l'expérience de ta force de volonté. Tu apprécies, j'espère, la finesse dont j'ai fait preuve en te convainquant simplement que tu voyais ce que tu désirais voir. » Il jeta un coup d'œil à Carode, puis à Ronce. « Il possède des murailles telles que vous n'en avez jamais rencontrées, mais une muraille qui ne cède pas devant le bélier peut s'effriter sous l'assaut délicat du lierre. » Il reporta son attention sur moi. « Tu aurais fait un adversaire de valeur si, dans ta suffisance, tu ne m'avais pas constamment sous-estimé. » Je n'avais encore rien dit. Je les dévisageais pendant que la haine qui m'envahissait consolidait mes remparts d'art. Tous trois avaient changé depuis la dernière fois que je les avais vus. La silhouette de Ronce, autrefois celle bien découplée d'un charpentier, accusait les effets d'un trop bon appétit et du manque d'exercice. L'accoutrement de Carode éclipsait l'homme qui le portait. Rubans et breloques festonnaient ses habits comme les fleurs un pommier au printemps. Mais c'était chez Guillot, assis entre eux, dans son fauteuil, qu'étaient survenus les changements les plus visibles. Il était tout de bleu sombre vêtu, et la coupe précise de ses habits leur donnait un aspect plus opulent que ceux de Carode. Une simple chaîne, un anneau à la main, des boucles d'oreilles, le tout en argent. À cela, s'arrêtaient ses parures. De ses yeux sombres, autrefois si terriblement perçants, un seul demeurait. L'autre, enfoncé dans son orbite, avait un aspect laiteux au fond de son trou, tel un poisson crevé dans un bassin d'eau sale. Il me sourit en me voyant observer son œil, puis l'indiqua du doigt. Un souvenir de notre dernière rencontre, bien que j'ignore toujours ce que tu m'as envoyé au visage. Quel dommage! Dis-je avec sincérité. J'avais préparé ces poisons pour tuer Royal, pas pour t'éborgner. Guillot soupira d'un air affecté. Une nouvelle trahison que tu confesses, encore que de façon superflue. Enfin, Nous serons plus soigneux cette fois-ci. Naturellement, nous te laisserons vivre le temps de découvrir comment tu as échappé à la mort, et tu auras un autre sursis tant que tu amuseras le roi royal. Aujourd'hui, la hâte et la discrétion ne sont plus de mise. »
Il fit un imperceptible signe de tête aux gardes derrière lui. Je souris en posant la lame enduite de poison de mon poignard sur mon bras gauche, puis, serrant les dents, j'entaillai la chair sur toute la longueur de mon avant-bras. Assez profondément pour que le poison passe dans mon sang. Guillot se dressa d'un bond stupéfait, tandis que Carode et Ronce prenaient une expression d'horreur et de dégoût. Je pris mon poignard de la main gauche et tirai l'épée de la droite. « Je suis déjà en train de mourir, » fis-je en souriant. « La fin est sans doute très proche. Je n'ai pas de temps à gaspiller et rien à perdre. » Mais il avait raison quand il disait que je l'avais toujours sous-estimé. Je me retrouvais non pas face aux membres du clan, mais devant les six gardes armés. Me suicider était une chose, me faire hacher menu sous les yeux de ceux dont je voulais tirer vengeance en était une autre. Je me retournai brusquement, et une vague de vertige me saisit soudain, comme si c'était la pièce et non moi-même qui se déplaçait. Quand je levai les yeux, les six hommes étaient toujours devant moi. Je fis à nouveau demi-tour, puis encore, avec une sensation de tangage. La fine ligne sanglante le long de mon bras commençait à me brûler. L'occasion de faire un sort à Guillot, Ronce et Carode s'éloignaient à mesure que le poison se répandait dans mon sang. Les gardes marchaient sur moi sans se presser, en se déployant en demi-cercle, et me repoussaient devant eux comme une brebis égarée. En reculant, je jetai un coup d'œil derrière moi et aperçus vaguement les membres du clan. Guillot se tenait un pas en avant des deux autres, l'air agacé. J'étais venu dans l'espoir de tuer Royal. Et je n'étais arrivé qu'à contrarier par mon suicide son âme damnée.
Ton suicide?
Quelque part, tout au fond de moi, vérité était frappée d'horreur. Mieux vaut ça que la torture. J'avais mis moins qu'un souffle d'art dans ma réponse, mais je suis prêt à jurer avoir senti Guillot essayer de la saisir.
Mon garçon, cesse cette folie. Va-t'en, viens me rejoindre.
Je ne peux pas, il est trop tard, je suis condamné. Laissez-moi, vous n'allez réussir qu'à vous trahir à leurs yeux.
Me trahir?
L'art de vérité tonna soudain dans mon esprit, comme un orage d'été, comme les vagues furieuses qui ébranlent une falaise de schiste. Je l'avais déjà vu agir ainsi, une fois, au paroxysme de la colère. Il dépensait toute sa force d'art d'un seul coup, sans considération de ce qui pouvait lui arriver par la suite. Je sentis Guillot hésiter, puis plonger dans ce torrent d'art pour atteindre vérité et tenter de se coller à lui pour aspirer son énergie.
« Réjouissez-vous, vipère, je me trahis devant vous !»
Et mon roi laissa libre cours à sa fureur. L'attaque d'art de vérité fut une explosion d'une puissance que je n'avais rencontrée chez nul autre. Elle n'était pas dirigée contre moi, mais je fus quand même jeté à genoux. J'entendis Carode et Ronce pousser des cris de terreur gutturaux. L'espace d'un instant, ma tête et mes sens s'éclaircirent, et je vis la pièce telle qu'elle était réellement, avec les gardes déployés entre le clan et moi. Guillot était allongé par terre, sans connaissance. Peut-être fus-je le seul à percevoir l'immense effort qu'il en coûta à vérité pour me sauver. Les gardes titubaient, pâlissant comme des bougies au soleil. Je me retournai. La porte derrière moi s'ouvrait, et de nouveaux gardes apparaissaient. En trois enjambées, je pouvais être à la fenêtre.
« Rejoins-moi. »
L'ordre ne me laissait aucun choix. Imprégné de l'art qui le véhiculait, il se grava au fer rouge dans mon cerveau, et ne fit plus qu'un avec ma respiration et les battements de mon cœur. Je devais rejoindre vérité. C'était un cri à la fois de commandement et à présent d'imploration. Mon roi avait sacrifié ses réserves pour me sauver. De lourdes tentures dissimulaient la fenêtre aux épaisses vitres en verre spiralé. Ni les unes, ni les autres, ne m'arrêtèrent quand je les traversais d'un bond, en espérant que des buissons amortiraient un peu ma chute en contrebas. Mais je touchai terre une fraction de seconde plus tard, à ma grande surprise, au milieu des éclats de verre. Croyant sauter d'une hauteur d'au moins un étage, je venais en réalité de sortir par une fenêtre du rez-de-chaussée. Un infime instant, je mesurai à quel point Guillot m'avait abusé. Puis, je me remis debout en vacillant, mon poignard et mon épée toujours à la main, et je détalai.
Les jardins étaient mal éclairés du côté des communs, et j'en remerciais le ciel tout en poursuivant ma course. Derrière moi, j'entendis des cris, puis Ronce qui braillait des ordres. Il serait sous peu sur mes talons. Je n'arriverai jamais à m'échapper à pied. Je pris vers l'obscurité compacte des écuries. Le départ des invités du bal les avait réveillés. La plupart des lattes de service devaient se trouver de l'autre côté du palais à tenir des chevaux par la bride, et les portes étaient grandes ouvertes sur l'air doux de la nuit. Des lanternes éclairaient l'intérieur. J'y fonçais, et à l'entrée, je faillis renverser une palefrenière. C'était une fillette maigre, au visage constellé de taches de rousseur, qui ne devait pas avoir plus de 10 ans. Elle recula en titubant, puis se mit à pousser des cris perçants à la vue de mes armes dégainées. « Je prends une monture, c'est tout, » lui dis-je d'un ton rassurant. « Je ne te ferai pas de mal. » Elle continua de reculer pendant que je remettais au fourreau mon épée. Puis mon poignard. Elle fit soudain demi-tour.
« Pogne, pogne !»
Elle se sauva en criant ce nom que je connaissais bien. Mais je n'avais pas le temps de m'y arrêter. À 3 boxes de moi, j'aperçus le cheval noir de Royal qui m'observait avec curiosité par-dessus sa mangeoire. Je m'approchai de lui à pas tranquille, puis lui caressais le museau pour susciter ses souvenirs. Il y avait bien 8 mois qu'il n'avait pas senti mon odeur, mais je le connaissais depuis sa naissance. Il me mordilla le col et ses moustaches me chatouillèrent le cou. « Allons, Flèche, on va faire une petite sortie de nuit. Comme avant, hein, mon vieux ?» J'ouvris la porte du box, pris le cheval par la longe et le fis sortir. J'ignorais où avait disparu la fillette, mais je ne l'entendais plus. Flèche était grand. Il n'avait pas l'habitude d'être monté à cru, et il sautilla un peu sur place, tandis que je me hissais tant bien que mal sur le poil lisse de son dos. Malgré le danger qui m'entourait de toutes parts, je ressentis un vif plaisir à me trouver à nouveau à cheval. Je m'agrippai à sa crinière et d'une pression des genoux le fis avancer. Il fit 3 pas, puis s'arrêta devant l'homme qui lui barrait le passage. Pogne me regardait, une expression incrédule sur le visage. Je ne pus m'empêcher de sourire devant son air ahuri. « Ce n'est que moi, Pogne. Il faut que j'emprunte une monture ou on va me tuer. Encore une fois. » Je m'attendais, je crois, à ce qu'il éclate de rire et me fasse signe de passer. Mais il continua de me dévisager en blêmissant de plus en plus, au point que je pensais le voir défaillir. « C'est moi, Fitz. Je ne suis pas mort. Laisse-moi sortir, Pogne. » Il recula. « Saint Eda ! » s'exclama-t-il. Il allait sûrement s'esclaffer maintenant. Mais non. « La magie des bêtes !» souffla-t-il. Puis il fit demi-tour et s'enfuit dans la nuit en beuglant.
« Garde ! Garde !»
Je dus perdre 2 secondes à le regarder se sauver bouche bée. Je sentis en moi un déchirement tel que je n'en avais pas éprouvé depuis le départ de Molly. Toutes nos années d'amitié, la longue routine du travail accompli ensemble à l'écurie, qu'il pleuve ou qu'il vente, tout cela balayé par un instant de terreur superstitieuse. C'était injuste, mais j'étais surtout écœuré par sa trahison, et une colère froide m'envahit. Cependant, je talonnais Flèche et m'enfonçais dans les ténèbres. Lui, au moins, il me faisait confiance, cet excellent cheval que Burick avait si bien dressé. Je lui fis quitter l'allée des voitures, trop éclairée, et les sentiers déserts pour traverser au galop haies et massifs de fleurs, et enfin passer comme une trombe devant un attroupement de gardes à l'une des portes des marchands. Il surveillait le chemin, mais Flèche et moi étions arrivés par les pelouses, et nous avions franchi l'issue avant qu'ils eussent compris de quoi ils retournaient. Si je connaissais bien Royal, demain, ils auraient des zébrures dans le dos. Passé la porte, nous coupâmes à nouveau à travers les jardins. Derrière nous s'élevaient des cris de poursuite. Pour un cheval accoutumé au harnais, Flèche répondait parfaitement à la pression de mes genoux et à mon poids. Je le persuadais de franchir une haie pour gagner une route. Puis, laissant les jardins du roi derrière nous, nous traversâmes au galop la partie raffinée de la ville, par des rues pavées où brûlaient encore des torches. Mais les belles demeures furent bientôt derrière nous, elles aussi. Et nous passâmes dans un bruit de tonnerre devant des auberges où brillait de la lumière pour les voyageurs tardifs et des échoppes enténébrées, les volets clos pour la nuit. Il était tard, les rues étaient quasiment désertes. Nous les enfilâmes sans y trouver plus d'obstacles que le vent. Je laissai Flèche ralentir en atteignant la partie la plus populaire de la ville. Là, les torches étaient plus largement espacées et certaines étaient déjà consumées. Néanmoins, ma monture percevant le sentiment d'urgence qui m'étreignait, conserva une allure respectable. Une fois, le claquement des sabots d'un cheval lancé au grand galop me parvint, et je crus un instant que nos poursuivants nous avaient retrouvés. Mais c'était un messager qui nous croisa sans même ralentir. Je continuai mon chemin, avec la crainte d'entendre des chevaux et le son des trompes derrière nous. Alors que je pensais avoir échappé aux recherches, je découvris que Guy de Négos me réservait encore une horrible surprise. Je venais de pénétrer dans ce qui était naguère le grand marché de la ville. C'était autrefois le cœur de la cité, vaste place commerçante, pleine de merveilles, où l'on pouvait trouver des denrées venues des quatre coins du monde connues. Par quel mécanisme de dégénérescence on en était arrivé au cirque du roi, je n'ai jamais pu le découvrir précisément. Quoi qu'il en fût, alors que je traversais le grand cercle du marché, Flèche renifla en sentant l'odeur du sang séché sur les pavés. Les vieux gibets se dressaient toujours sur la place, ainsi que les poteaux de flagellation, érigés au profit de la foule à côté d'autres appareils dont je n'avais nulle envie de connaître l'usage. Sans doute ceux que l'on installerait dans le nouveau cirque du roi bénéficieraient-ils d'un surcroît d'invention dans la cruauté. Je pressai les flancs de Flèche et passai devant ses instruments avec un frisson glacé, en adressant à Eda une prière pour en demeurer à l'écart. Soudain, une volute d'émotion s'enroula autour de mes pensées et les tordit. L'espace d'un instant, le cœur tonnant, je crus que Guillaume avait rattrapé par l'art et cherchait à me rendre fou. Mais j'avais consolidé mes murailles mentales autant qu'il m'était possible, et de toute façon, après l'assaut destructeur de vérité, ni lui ni aucun de ses acolytes ne seraient aptes à artiser avant longtemps. Non, c'était bien pire. Ce que je percevais venait d'une source plus profonde, plus primitive, aussi insidieuse qu'une eau limpide mais empoisonnée. Un flot de haine, de douleur, de claustrophobie asphyxiante et de faim se déversait en moi, le tout combiné en un effrayant désir de vengeance et de liberté qui réveilla en moi tout ce que j'avais éprouvé dans les cachots de Royal. Cela venait des cages. Disposées autour du cercle, elles dégageaient une terrible puanteur, une odeur atroce de blessures infectées, d'urine et de viande pourrie. Pourtant, cet affront à mon odorat n'était rien à côté des infernales émanations de vif que j'en captais. Les grilles renfermaient des bêtes démentes, des créatures gardées prisonnières pour massacrer les criminels et les forgiser que Royal leur jetait en pâture. Il y avait un ours à qui l'on avait passé une lourde muselière, malgré les barreaux derrière lesquels il allait et venait sans cesse. Il y avait aussi deux grands félins d'une espèce inconnue de moi, qui souffraient le martyre à cause des crocs qu'ils s'étaient cassés et des griffes qu'ils s'étaient arrachées sur les barres de métal et qui persistaient néanmoins à se battre contre leur prison. Il y avait enfin un immense taureau noir, aux cornes d'une envergure prodigieuse, à la chair hérissée de pointes enrubannées et piquée dans des blessures infectées d'où coulait du pus. Leur supplice hurlait en moi, demandait que j'y mette fin. Mais je n'avais pas besoin de m'arrêter pour voir les lourdes chaînes et les solides cadenas qui fermaient chaque cage. Si j'avais eu un pic, j'aurais pu essayer de faire sauter les cadenas. Si j'avais disposé de viande ou de grains, j'aurais pu libérer les bêtes en les empoisonnant. Mais je n'avais rien de tout cela. Et encore moins de temps. Je poursuivis donc ma route jusqu'au moment où la vague de leur folie et de leur tourment déferla sur moi. Je tirai les rênes. Je ne pouvais pas les laisser ainsi. Mais l'ordre surgit en moi, indélébile. Rejoins-moi. Désobéir était insupportable. Je talonnais Flèche qui tremblait comme une feuille et abandonnais les bêtes encagées à leur sort, emportant sur l'ardoise de Royal une nouvelle dette que je lui ferais régler un jour. La lumière du jour apparut alors que nous parvenions à la sortie de la ville. Je n'avais jamais imaginé que Guy de Négos fût si vaste. Nous nous arrêtâmes au bord d'un ruisseau paresseux qui se jetait dans le fleuve. Je mis pied à terre et laissai Flèche s'abreuver. Après quoi, je le fis marcher un moment à la longe, puis le laissa boire à nouveau. Pendant ce temps, mille pensées se bousculaient dans ma tête. Des équipes de garde lancées à ma recherche devaient suivre à présent les routes menant au sud, dans l'idée que je prendrais la direction de Serres. J'avais désormais une bonne avance sur elles. Tant que je ne m'arrêtais pas, j'avais des chances de leur échapper. Je me remémorais mon baluchon, si soigneusement cachée, que je ne récupérerais jamais. Mes vêtements d'hiver, ma couverture, mon manteau, j'avais tout perdu. Je me demandais soudain si Royal reprocherait à Pogne le vol du cheval. Je revoyais sans cesse le regard de Pogne sur moi avant qu'il s'enfuit, et j'en venais à me réjouir de n'avoir pas cédé à la tentation de chercher Molly. Il était déjà bien assez dur de voir une telle expression d'horreur et de dégoût sur les traits d'un ami. Je n'avais nulle envie de la reconnaître dans ses yeux à elle. Je me rappelais aussi la sourde souffrance des bêtes que m'avait fait percevoir mon vif. Mais tous ces souvenirs furent bientôt chassés par la colère que j'éprouvais de ce que mon attentat contre Royal eût été contrarié, et par une question. Détecterait-on les poisons dont j'avais saupoudré ses vêtements? Ou bien parviendrais-je quand même à le tuer? Et dominant l'ensemble, il y avait l'ordre de vérité. « Rejoins-moi », avait-il dit, et je ne cessais jamais tout à fait d'entendre ces mots. Ils obsédaient une petite partie de mon esprit, me poussaient à ne pas perdre mon temps à réfléchir ni à boire, et à remonter sur mon cheval pour rejoindre Vérité qui avait besoin de moi, qui me l'avait ordonné. Pourtant, je me baissais pour boire. Et c'est là, agenouillé au bord de l'eau, que je remarquais que je n'étais pas mort. Je trempais la manche de ma chemise dans le courant, puis décollais avec précaution de mon bras le tissu imprégné de sang coagulé. L'entaille que je m'étais faite était peu profonde, guère plus qu'une longue coupure. Elle était enflammée, mais ne paraissait pas infectée. Je me rappelais un peu plus tard que je m'étais servi à deux reprises de mon poignard pour tuer cette nuit, et que j'avais essuyé la lame au moins une fois. Le poison ne devait plus s'y trouver qu'à l'état de trace infime quand je m'étais coupé. Tel le soleil levant, l'espoir se mit soudain à briller en moi. On allait chercher un cadavre sur le bord de la route ou un homme mourant caché dans la cité, trop affaibli désormais pour monter à cheval. Les trois membres du clan m'avaient vu m'empoisonner et avaient dû percevoir ma certitude absolue que j'allais bientôt périr. Parviendrait-il à convaincre Royal de ma mort prochaine? Je n'y comptais pas trop, mais je pouvais l'espérer. Je me hissais de nouveau sur Flèche et le talonnais. Nous passâmes rapidement devant des fermes, des champs de céréales et des vergers. Je chevauchais le bras serré contre ma poitrine. Sous peu, quelqu'un penserait à faire interroger ceux qui entraient dans la ville. Mieux valait donc commencer tout de suite à jouer mon rôle. Nous finîmes par rencontrer des étendues de terres incultes sur lesquelles paissaient en liberté des moutons et des haragards, et, peu après-midi, je fis ce que je devais faire. Je mis pied à terre près d'un ruisseau encombré de broussailles, fis boire Flèche encore une fois, puis le fis pivoter en direction de Gué de Négoce. « Retourne aux écuries, mon vieux, » fis-je. Comme il ne réagissait pas, je lui assénai une claque sur le flanc. « Vas-y, va retrouver Pogne. Dis-lui que je suis mort. » Je lui transmis l'image de sa mangeoire débordant d'avoine, dont je le savais friand. « Allons, Flèche, vas-y. » Il renifla en me regardant d'un air perplexe, s'éloigna, puis s'arrêta un peu plus loin et tourna la tête vers moi en attendant que je le rejoigne. « Va-t'en » criai-je en tapant du pied. Il tressaillit, puis se mit en route au trot, les genoux au levé en agitant la tête. Il était à peine fatigué. Quand il reviendrait aux écuries, sans cavalier, peut-être me croirait-on mort, et perdrait-on du temps à chercher un cadavre au lieu de me poursuivre. Je ne pouvais guère faire davantage pour tromper l'adversaire, et cela valait mieux, en tout cas que de chevaucher la monture du roi lui-même au vu et au su de tout le monde. Le bruit des sabots de Flèche allait diminuant, et je me demandais s'il m'arriverait un jour de remonter sur un animal de cette qualité, sans parler d'en posséder un. C'était peu vraisemblable. « Rejoins-moi. » L'ordre résonnait toujours dans ma tête. « je viens, » marmonnai-je. « D'abord je vais chasser, manger un morceau et dormir, mais ensuite je viens. » Je quittai la route et me mis à suivre le ruisseau vers l'amont, dans des broussailles de plus en plus denses. Un chemin long et fatigant m'attendait, et je n'avais pour l'affronter guère plus que ce que j'avais sur le dos.